France Culture. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Questions du soir, 1h30 de débat, d'analyse, de découverte. À 19h, dans l'actualité des idées et de la recherche, nous recevons la philosophe Déborah Brostaud. Elle explore, dans un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil, les désirs guerriers de la modernité. Mais d'abord, c'est l'heure du débat dans Questions du soir, un débat consacré ce soir aux zones à faible émission, les très décriées ZFE, dont les heures sont peut-être comptées puisqu'elles sont en ce moment même discutées à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi sur la simplification de la vie économique. Alors que les opposants à cette initiative apparue dans la loi en 2019 dénoncent une écologie punitive, ses défenseurs parlent eux de mesures nécessaires de la lutte contre la pollution. Mais les ZFE dépassent désormais le cadre technique dans lequel les discussions auraient pu se tenir pour devenir un véritable totem politique, comme la taxe carbone, qui avait été le déclencheur du mouvement des Gilets jaunes. Les ZFE touchent à la voiture, mais pas que. Le débat est à la croisée de l'articulation entre écologie et justice sociale. Alors, faut-il mettre fin aux ZFE? Quelles assurances démocratiques proposer pour une juste transition écologique? Pour en débattre avec nous, trois invités ce soir. Daphné Chamard-Terlingue, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable transition écologique jusqu'au Secours catholique, si je ne me trompe pas. À vos côtés, Éric Michoud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député UDR de la 4e circonscription de Saône-et-Loire. Et enfin, Aziza Akmouche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de la division Ville, Politique Urbaine, Développement Durable à l'OCDE. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble pour ce débat jusqu'à 19h.
C'est une bombe sociale à retardement, et cette bombe sociale à retardement, elle va exploser. Je sais quand, moi, à partir du moment où les radars seront installés et que ça va commencer à crépiter.
Là, en fait, on me force à m'en débarrasser, alors que pour moi, tant qu'elle roule, tant qu'elle m'amène d'un point A à un point B.
Ce sont des voitures qui ont entre 15 ans et 20 ans d'ancienneté. Donc, on parle par exemple du premier modèle de Twingo. Donc, on ne parle pas évidemment de ce qui compose l'essentiel de notre parc aujourd'hui. Et des dérogations sont prévues.
Moi, je travaille à Carrefour Pleyel à Saint-Denis. Et la barrière, c'est la 86. Ça veut dire que si j'étais une critère 3, je ne peux plus sortir pour aller travailler. Donc, dans tous les cas, tout est fait pour que les pauvres restent loin.
Je pense qu'il faut quand même rappeler que les zones à faible émission sont avant tout un outil sanitaire pour permettre de lutter contre les maladies et les décès prématurés liés à la pollution de l'air.
Ce qui ne veut rien dire, parce que je pollue beaucoup moins que pas mal de voitures plus récentes. Donc, il y a des gens qui sont bannis, et ça, c'est insupportable.
Il faut dire à nos élus, à force de vouloir vous éviter de mourir, vous nous empêchez de vivre.
Voilà pour la punchline finale de ce montage réalisé par François Richer. À force de vouloir nous aider à nous empêcher de mourir, vous nous empêchez de vivre. Et peut-être que là se cristallisent les débats qu'il y a autour des ZFE. Mais alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose, si vous le voulez bien, que vous nous expliquiez, Aziza Akmouche, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de ZFE? Qu'est-ce que sont ces ZFE? Quand est-ce qu'elles ont été votées et combien y en a-t-il en France aujourd'hui?
Alors les ZFE qui sont entrées en vigueur en France de façon un peu plus contraignante juridiquement depuis le 1er janvier, puisqu'elles sont issues de la loi Climat et Résilience de 2021, sont un dispositif de politique publique dont l'objectif principal est d'offrir un air plus respirable, si on veut faire simple, et qui contraignent en particulier les métropoles, notamment celles où les niveaux de la qualité de l'air sont considérés comme insuffisants par rapport aux standards de l'Organisation mondiale de la santé ou d'autres directives, notamment des directives cadres de l'Union européenne, pour lesquelles la France, d'ailleurs, a déjà été épinglée, attaquée et a perdu par le passé, et qui ont une visée non seulement écologique, donc elles font partie de l'arsenal des instruments que l'on utilise pour accompagner la transition écologique et réduire la pollution de l'air, mais aussi un enjeu de santé publique, puisque comme ça a été dit effectivement dans votre lancement, il y a plus de 40 000 morts par an qui sont liées à la pollution atmosphérique. Il faut rajouter à cela 30 à 40 000 maladies chroniques qui sont liées aussi à la pollution atmosphérique et qui touchent en premier lieu les populations les plus vulnérables.
Et on va y revenir sur les enjeux de santé publique qu'il y a derrière. Combien est-ce qu'il y a de ZFE aujourd'hui en France? Quelles sont les agglomérations qui sont concernées précisément?
Alors, dans l'absolu, beaucoup d'agglomérations ont commencé à mettre en œuvre le dispositif, évidemment. Paris, Lyon, Grenoble, Montpellier, surtout des grandes villes qui considèrent soit qu'elles ne répondent pas ou ne sont pas en phase avec les seuils réglementaires ou qui, de façon incitative, veulent améliorer encore plus la qualité de l'air au-delà des contraintes réglementaires et qui, sur des territoires plus ou moins vastes, avec des dispositifs d'implémentation plus ou moins restrictifs et des dispositifs de sanctions qui, d'ailleurs, n'ont pas encore été véritablement mises en œuvre, restreignent la circulation des voitures individuelles sur un périmètre donné de ces différentes métropoles.
Alors, Daphné Chamartin, que les ZFE sont créés, d'abord pensés par la ministre des Transports de l'époque, Elisabeth Borne, qui les a défendues à l'Assemblée en 2019. Elles sont pensées juste après le mouvement des Gilets jaunes, lorsque ce mouvement social est encore bien présent dans les esprits des élus. Et pourtant, à ce moment-là, les sondages de l'époque disaient, on est allé chercher, qui disaient que 75% des Français étaient prêts à changer leurs habitudes de mobilité pour contribuer à la qualité de l'air. Il semble aujourd'hui que les ZFE sont très impopulaires. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette période où on a commencé à réfléchir aux ZFE, déjà dans un contexte où on mettait en tension la question sociale et la question écologique, et aujourd'hui dans lequel ce sont les ZFE qui cristallisent l'attention publique et politique.
Je pense que la problématique avec les zones à faible émission, c'est plutôt la façon dont on a accompagné ce dispositif. On voit bien là les premières questions que vous avez posées. On voit qu'il y a la loi d'orientation des mobilités 2019, puis ça s'est renforcé en 2021, puis le gouvernement a parlé de territoires de vigilance. On a aussi des agglomérations qui étaient concernées par des restrictions plus importantes, ces fameux critères 3 dont parlait tout à l'heure la ministre dans le lancement. Et puis on a d'autres territoires. Donc en fait aujourd'hui, il y a un espèce d'amalgame en fait dans tout ce qui existe. Qu'est-ce qu'une zone à faible émission? Est-ce que je suis concernée? Est-ce que je suis pas concernée? Et il y a eu énormément de mauvaises informations qui ont circulé. À un moment, on entendait que tous les véhicules critères 3 allaient concerner. Donc quand vous entendez que vous avez possiblement 13 millions de véhicules qui pourront plus circuler, forcément, ça fait peur. Donc pour nous, en fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, c'est pas la zone à faible émission qui crée des inégalités sociales, mais c'est finalement son manque d'accompagnement et le manque d'alternatives qui génère une anxiété et qui génère une crainte de plus pouvoir se déplacer. Alors qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, clairement, c'est que les personnes qu'on accompagne, les personnes les plus modestes, elles ont déjà des difficultés de mobilité, soit parce qu'elles n'ont même pas les moyens de se payer une voiture, soit parce que la voiture coûte déjà trop cher. Donc, ces enjeux de mobilité, et c'est bien la taxe carbone qui nous l'a bien redit, c'est un enjeu quotidien pour les populations modestes qui déjà ont des difficultés pour se déplacer.
Éric Michoud, je rappelle que vous êtes député du groupe UDR. C'est vous et vos alliés du RN qui avez fait voter en commission le 26 mars la suppression de ces ZFE. Qu'est-ce que, pour que tout le monde comprenne bien les enjeux du débat, qu'est-ce que vous reprochez à ces ZFE?
Enfin, c'est pas que nous et nos alliés, c'est qu'en fait, en commission, il y a eu une majorité large avec bien d'autres députés qui sont, pour la plupart, attachés aux territoires ruraux. Donc, c'est globalement.
On a pu voir effectivement qu'il y a eu des contradictions, même au sein du bloc central. Vous avez raison.
Exactement.
Allons au cœur de la question. Qu'est-ce que vous reprochez aux ZFE?
On pourrait reprocher beaucoup de choses en particulier. En fait, c'est une ambiance générale sur toutes les contraintes qui pèsent sur les populations en général et les populations en territoires ruraux en particulier. On parle des ZFE, on parle des ZAN, on parle des DPE. Il y a tout un global de contraintes qui sont mises et qui ciblent une population en particulier.
La suppression des DPE faisait aussi partie de votre programme législatif. Vous, je le rappelle, vous êtes député de la 4e circonscription de Saône-et-Loire, qui compte
à Louan.
Qui compte Chalon-sur-Saône.
En partie,
mais qui est une ville moyenne. Sinon, c'est une région principalement rurale. Concrètement, quels sont les enjeux pour les gens qui vivent dans les personnes que vous représentez, qui vivent dans ce territoire? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que pourrait changer les ZFE pour les habitants de votre circonscription?
C'est une assignation à résidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les habitants de nos campagnes ont besoin d'aller en ville. On dit qu'ils n'ont pas besoin d'aller en ville, bien évidemment. Ils ont besoin d'aller en ville parce qu'ils ont besoin de se soigner, travailler, parce qu'ils ont besoin de rencontrer des gens, parce qu'en même temps, ils y travaillent. Les artisans, les commerçants qui ont des camionnettes qui ont plus de 15 ans ne pourront plus rentrer dans les villes. Donc ça touche autant les populations pauvres ou modestes. D'ailleurs, j'ai entendu la ministre Pannier-Runacher qui disait « les pauvres n'ont pas de voiture ». Bon, il faudrait peut-être qu'elle vienne à la campagne. Elle verrait que les pauvres ont des voitures, 80% des voitures.
60%.
On dit 85, après ça dépend.
Enfin, Daphné Chamartalin vient nous dire que la moitié des personnes avec lesquelles elle travaillait au sein du Secours catholique étaient dépourvues de voitures.
Alors, on n'est pas dans la même région, manifestons. Et puis même, il y en aurait que ne serait que 50%. Là n'est pas le problème. Ça empêcherait 50% de pouvoir se déplacer. C'est-à-dire, c'est une atteinte grave à la liberté de déplacement. Et tant est que même que vous puissiez aller en ville, il va falloir, si vous y alliez, remplir, notamment sur Lyon, des tableurs, des sites internet. Donc, il faut être branché sur les sites internet pour dire à quel moment vous allez partir, à quel moment vous allez arriver. Donc, c'est une espèce de flicage qui est très malsain en réalité et qui cible les population rurale, et ça, c'est inacceptable. Sur le deuxième point, sur l'aspect écologique, on y reviendra.
Oui, on
y reviendra. Et j'aurais quelque chose à dire, parce qu'en réalité, ça ne changera rien, et je vous dirai pourquoi.
Aziza Agmoul, vous êtes d'accord avec cette analyse? Ça provoque une assignation à résidence?
Alors, il est vrai que la voiture, c'est l'accès au travail, c'est l'accès aux hôpitaux, c'est l'accès aux équipements publics, aux services, et il est vrai que beaucoup des enjeux aujourd'hui de politique publique, et notamment les questions de mobilité, ne sont pas contraints par les périmètres administratifs. Donc, quand vous adoptez des mesures dans des villes, on sait très bien que les villes brassent des populations, concentrent spatialement les travailleurs et les entreprises. C'est ça qui crée les effets d'agglomération et qui fait des villes et des grandes métropoles notamment des moteurs de productivité, des engins de développement économique. Et donc, pour toutes ces politiques-là, il faut avoir une réflexion en fonction de ce que l'on appelle l'approche fonctionnelle. Donc, aller au-delà des périmètres urbains et prendre en compte, en gros, les trajets domicile-travail qui s'étendent au-delà des métropoles. Donc, il est vrai que mettre en œuvre des mesures, quelles qu'elles soient d'ailleurs, dans les grandes métropoles, a des conséquences sur les villes environnantes et sur les territoires ruraux. Mais la question qui se pose derrière, c'est qu'est-ce qu'on offre comme alternative pour ces parties de la population, puisque si elles sont mal mises en œuvre, ces ZFE, elles peuvent accentuer les fractures sociales, certes, mais aussi les fractures territoriales et les fractures économiques, parce que les entreprises sur les territoires, elles aussi, ne souffrent pas de la même façon de ces contraintes quand elles n'ont pas de mesures d'accompagnement pour se faire. Donc il faut penser ces fractures territoriales en amont et avoir des mesures d'accompagnement pour ne pas jeter d'une certaine façon le bébé avec l'eau du bain.
Oui, les Français les plus précaires sont les premières victimes de la pollution de l'air. Et nous luttons contre ça. Rien qu'à Paris, la zone à faible émission a permis de réduire de 42% le taux d'oxyde d'azote par rapport à 2017. Ce sont donc des décès évités chaque année. Ce sont donc des mois de vie gagnés pour ces Français qui habitent dans ces zones qui sont polluées. Oui, le gouvernement refuse que les Français soient assignés à domicile. Car je le rappelle, ce sont 4,3 millions de Français qui n'ont aujourd'hui accès à aucun moyen de transport. Chacun doit avoir le droit de circuler, et surtout les plus vulnérables. Mais chacun a aussi droit à la santé. Il est inacceptable de laisser un monde à deux vitesses prospérer, d'avoir d'un côté un air de qualité et de l'autre un air pollué pour les plus fragiles. C'est tout le sens de l'amendement que présentera le gouvernement cette semaine. Ce n'est pas à coup de mentons et de fake news que nous protégerons les Français. Que faites-vous pour empêcher les 48 000 décès précoces par an de pollution de l'air que nous pourrions éviter?
Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup.
Voilà la voix de la ministre Agnès Pannier-Runacher le 8 avril 2025. Daphné Chamartalin, est-ce que, pour revenir sur ce que disait Aziza Agmoul juste avant, c'est quoi alors? C'est une question de santé publique? C'est une question économique, c'est-à-dire c'est une question vis-à-vis, c'est une question d'égalité des droits. Où est-ce que ça se joue aujourd'hui, ce débat des ZFE?
La zone à faible émission, c'est clairement une politique de santé publique.
C'est ce qu'elle dit. D'abord comme une politique de santé publique qu'il faut le considérer?
Il me semble qu'il faut le considérer comme une politique de santé publique, mais surtout une opportunité pour repenser ce système de mobilité. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que de toute façon, le système où on est dépendant de la voiture, où on n'a pas d'autre choix que la voiture, ça crée des fractures et des enjeux. On l'a vu, on a cité les territoires ruraux. Nous, ce qu'on voit dans nos 3500 équipes locales, on en a beaucoup qui sont dans les territoires ruraux, c'est effectivement, sans voiture, on ne peut rien faire. Mais on a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens et qui ne pourront pas se payer la voiture, et ça restera. Donc il y a un enjeu, en fait, à se dire. Si la zone à faible émission, c'est remplacer un vieux véhicule par un véhicule neuf, là, on a perdu le sens de la politique. En fait, il faut se dire que la zone à faible émission, c'est une occasion pour repenser la mobilité sur son territoire et bien l'adapter effectivement aux besoins, aux enjeux des personnes, des entreprises, et donc d'intégrer ça dans tout un système de réflexion pour mettre en place des alternatives.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, Éric Michou? On a entendu la ministre, on vient d'entendre les chiffres que nous donnait Daphné Chamard-Terlinck. Les populations les plus vulnérables sont les plus touchées par la population de l'air. Et c'est au nom des classes populaires qu'on veut lutter contre les ZFE. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction?
Il y a des contradictions dans tous les sens dans ce qu'a dit la ministre. Et d'ailleurs, c'est même manipulatoire et quand même assez culpabilisant pour les populations rurales qui viendraient en ville pour polluer les villes.
C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les populations les plus précaires, sont les populations les plus touchées par la pollution de l'air. C'est-à-dire que...
En ville. Puisqu'elle a parlé de la qualité de l'air à la campagne, c'est très bonne.
Dans les régions urbaines, puisque de toute façon, les ZFE concernent les villes.
Elles ne
concernent pas autre chose que les villes.
La réponse à ça, il y a un double levier. Il y a une première, une volonté absolument de passer le parc automobile en électrique. Donc il y a déjà cette volonté-là qui a bousillé notre industrie automobile. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet, mais il y a cette volonté d'ailleurs électrique. Personne ne peut se payer des voitures électriques entre 45 et 60 000 euros. Quand on parle de pollution...
Il y a un problème d'accès à ce nouveau parc automobile.
Bah évidemment, là, pour plein de raisons, ce n'est pas le débat. Mais quand on parle de pollution, de quoi parle-t-on? De pollution au dioxyde de carbone. Mais la vraie pollution en ville aujourd'hui qui existe, parce que la voiture... Dans cette part de pollution, elle représente 15% de la pollution elle-même. 85% du reste de la pollution correspond à la pollution liée au chauffage, éventuellement aux usines, d'une manière générale. Dans ces 15% de pollution à la dioxine, qui effectivement peut exister, la plus importante des pollutions, c'est la pollution aux pneumatiques et aux microparticules liées aux pneus, au goudron, au caoutchouc. D'ailleurs, le lieu qui est le plus polluant...
Et donc à la largeur des pneus, c'est-à-dire que les grosses
voitures... Alors là, vous dites un truc extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a installé à Paris des grosses voitures électriques, des 4x4 énormes, qui ont des pneus deux fois plus larges que les voitures normales. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de pollution en microparticules, et le lieu qui est le plus pollué à Paris, c'est pas l'extérieur, c'est le métro. Parce que les métros parisiens sont avec des pneumatiques.
Alors, pardonnez-moi de vous embêter, mais...
Vous m'embêtez pas, si, je suis là pour ça.
Anne Hidalgo, par exemple, a fait une politique contre les SUV, c'est-à-dire contre ces grosses voitures qui ont des pneus larges. Est-ce que vous êtes en train de nous dire à ce micro que vous êtes d'accord avec la politique anti-SUV d'Anne Hidalgo à Paris ?
Non, je ne suis pas d'accord avec sa politique de vouloir mettre Paris impraticable, mais la réalité aujourd'hui...
Mais sur la question des SUV comme émetteurs de pollution en plus.
Non, mais il faudrait savoir ce qu'on veut. Ou bien on veut des voitures électriques, ou bien on veut des voitures thermiques, mais la pollution, puisqu'on parle de la pollution, aujourd'hui, elle est essentiellement amenée par des voitures électriques de grosse taille, parce que la plupart des voitures sont des grosses tailles, qui ont des gros pneus. Et la vraie pollution, qui est bien pire que celle du dioxine, c'est la pollution aux microparticules liées au caoutchouc, mais les microparticules aussi liées aux plaquettes de frein, et les microparticules liées aux amortisseurs.
Aziza Akmoche.
Oui, je pense qu'il ne faut pas voir les ZFE comme la panacée ou la réponse à tous les problèmes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. C'est une réponse parmi d'autres et il faut un mix d'instruments et de politiques publiques pour faire face à ces enjeux de la transition écologique. Mais là où elles ont été mises en place, et d'ailleurs avec des expériences documentées de villes comme Tokyo, par exemple, qui ont déjà 20 ans de retour sur expérience, elles marchent. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elles ont permis de réduire à Londres, par exemple, les particules fines de près de 30%, à Paris de près de 35%, et on peut dérouler la liste des exemples concrets. Évidemment, elles font partie d'un écosystème de solutions plus larges. Maintenant, sur la voiture individuelle, il faut être très clair. Dans les centres-villes des grandes agglomérations urbaines, où des alternatives à la voiture individuelle existent, parce qu'il y a une densité en matière de transport public, qu'il y a des métros, qu'il y a des trams, qu'il y a des bus. La voiture individuelle doit devenir l'exception plutôt que la règle. C'est très clair, dans les centres-villes des grandes agglomérations urbaines, il faut s'assurer qu'on réduise le poids de la voiture individuelle, et pas uniquement pour des questions environnementales, aussi pour des questions de justice sociale et spatiale. Parce que la voiture individuelle, dans les villes des grandes agglomérations urbaines, c'est 50% de l'espace public. C'est les routes, c'est les trottoirs, c'est les signalisations, c'est les parcs, parkings, elles sont à l'arrêt 80% du temps. Donc évidemment, c'est une aberration, c'est de l'espace public qui pourrait être utilisé à d'autres fins et notamment pour répondre à des enjeux d'équité sociale. Maintenant, quand on a dit ça, il faut aussi comprendre qu'il y a toute une partie du territoire qui n'est pas des centres-villes de grandes agglomérations urbaines. Ça peut être des villes moyennes qui sont proches mais pas suffisamment bien connectées pour jouer leur rôle de développement économique. Ça peut être des zones rurales où on voit qu'il y a 80% des ménages dans les zones rurales qui ont au moins une voiture individuelle. Donc sur ces territoires-là, il faut penser des alternatives pour accompagner la transition. Il faut le faire de façon progressive, il faut le faire en consultant les différentes parties prenantes, il faut des mesures d'accompagnement ciblées pour des parties, des catégories de la population pour éviter justement ce que l'on appelle ces effets redistributifs des populations où on aggrave la situation des plus vulnérables. Et je voudrais juste terminer en disant que la simplification souvent dans le débat de cette dichotomie qu'est la ville où se trouvent en gros les gens riches et les campagnes où se trouvent les gens pauvres est aussi contestée par les données. Il y a beaucoup de pauvres dans les villes. Plus une ville est grande d'ailleurs, plus elle est source de ségrégation spatiale et d'inégalité. Édouard Glaser, le penseur urbain, disait déjà il y a 25 ans, les villes sont à la fois des sas vers plus d'opportunités mais aussi des trappes vers plus de pauvreté, et il y a beaucoup de riches dans les campagnes. Donc cette cohésion territoriale, elle n'est pas uniquement sur des enjeux sociaux, elle est aussi sur des enjeux territoriaux. Il faut connecter les villes, les zones rurales et les villes de différentes tailles sur le territoire.
Alors, est-ce que vous diriez que l'État a manqué en la matière ? Est-ce que l'État n'a pas rempli son rôle dans la mise en place des ZFE en créant de nouvelles lignes de transport public, en permettant, je ne sais pas, en facilitant le covoiturage, ce que sais-je, en créant les moyens de permettre que cette lutte, que cette politique de santé publique puisse être augmenter l'acceptabilité d'une certaine manière de cette politique.
Je dirais pas ça parce que ces dispositifs ont été accompagnés d'un certain nombre d'exemptions. Alors évidemment, elles sont pas suffisantes. Il y a des exemptions pour les services d'urgence, pour les véhicules qui sont utilisés par les personnes handicapées. Il y a des villes qui ont mis en place parfois des mesures spéciales pour les bénéficiaires du RSA, par exemple, pour les artisans, pour les professionnels. Donc il y a des mesures, elles n'ont pas été suffisamment taillées dans la dentelle d'une certaine façon pour répondre à toutes ces contraintes et notamment sociale et territoriale.
À Lyon, par exemple, dans les mairies écolo, on a fait plein de réunions publiques pour écouter tout le monde, prendre en compte les cas particuliers. C'est des années de travail.
Mais les élus vous diront que
on change d'avis.
Mais les élus vous diront qu'ils sont pas complètement hors sol et que ils écoutent aussi des électeurs qui leur disent nous on vous suit pas.
Certains, enfin vous croyez que les maires écolo ils écoutent pas leurs électeurs? Il y a eu beaucoup de réunions publiques. J'étais à Lyon dans un centre social avec des élus locaux il y a quelques mois et il y avait un monsieur à côté de moi qui avait entendu parler de la ZFE qui me disait tiens vous êtes à côté de moi, j'ai un truc que j'ai pas compris. Moi ma femme est dans un EHPAD dans l'Ain donc je vais la voir il y a quelques dizaines de kilomètres, j'y vais tous les 15 jours mais je vais pas changer de voiture que pour ça, comment je peux faire? Donc il y avait le maire de Lyon Grégory Doucet, j'appelle Grégory Doucet en disant ça m'intéresse aussi d'avoir la réponse, et Grégory Doucet lui dit non, pour ce trajet là vous êtes considéré comme un petit rouleur, si vous ne faites que ça, ça ira. Le monsieur dit oui mais je vais aussi à Carrefour une fois par semaine, est-ce que ça je pourrais? Grégory Doucet dit il n'y a pas de problème et vous aurez de la marge.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
Vous aurez certainement reconnu la voix de Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. C'était il y a quelques jours sur France Info qui prenait l'exemple de Lyon et des fameuses exceptions dont vous parliez. C'est-à-dire que la ZFE n'était pas un mur face auquel on se trouvait lorsque l'on traversait une ville. Daphné Chamard-Terlin, vous nous parliez d'un autre exemple, c'était la ville de Strasbourg.
Oui, l'Eurométropole de Strasbourg a essayé d'accompagner la mise en place de sa zone à faible émission. D'abord, je reviens sur l'enjeu d'information, parce que ça, c'est quand même un point. Et on l'a vu, notre débat a rapidement dévié sur la question des villes, des territoires ruraux, alors que rappelons qu'aujourd'hui, il n'y a que 4 métropoles qui interdisent la circulation des véhicules de plus de 20 ans essence et 15 ans diesel. Donc, simplement pour se dire qu'on est quand même sur un sujet pour les très grosses agglomération, pour les très grosses métropoles. Je dis ça parce que nous, ce qu'on observe au Secours catholique, c'est quand même un enjeu d'information où les personnes ne savent pas trop ce qui va leur arriver et donc ça fait peur.
D'ailleurs, une première information, c'est combien de personnes sont concernées par les ZFE, parce qu'on entend tout type de chiffres. Excusez-moi de vous interrompre. On entend tout type de chiffres, on entend des millions de personnes. Il y a quelques jours, Alexandre Jardin, auteur des Gueux, lead un peu la mobilisation contre les ZFE, parlait d'un tiers de la population française. Autre part, je ne nie qu'il n'y a que 600 000 personnes en France qui seraient concernées. juste sur la réalité de ces chiffres, quelle est l'information à laquelle on peut se fier, selon vous, aujourd'hui, Daphné Chamartin-Link?
Alors, moi, si je regarde les chiffres, la répartition du parc, alors il existe un site, hein, tout le monde peut y aller, c'est opendata.zfe, en fait, où vous regardez la répartition du parc automobile, selon les critères. Hein, les critères, c'est lié à l'âge et à la motorisation du véhicule. Et vous regardez les territoires qui interdisent les véhicules. Aujourd'hui, on a Lyon, le Grand Paris, Grenoble et Montpellier qui ont interdit la circulation depuis le 1er janvier aux véhicules critères 3, critères 4, 5 et non classés. Ce total fait effectivement autour de 700 000 véhicules. C'est ça la réalité.
Vous êtes d'accord sur ces chiffres? Vous vous accordez sur ces chiffres, Eric?
Ce chiffre-là est certainement juste. C'est le chiffre des voitures décrites par critère 3, comme ça a été très bien décrit, dans les villes elles-mêmes. Sauf que ça, là, on parle des voitures qui sont ailleurs des villes, qui sont la majorité. Et là, on parle de 12 millions de voitures.
Alors, quand on dit 12 millions, c'est 12 millions de véhicules critères 3. Mais encore une fois, vous habitez, par exemple, à Denain, par exemple, une ville du Nord, une grosse ville, qui est à côté de Valenciennes, Valenciennes qui est un territoire de vigilance. Eh bien, vous n'êtes absolument pas concerné par cette restriction de circulation. Alors si, effectivement, en tant qu'habitant de Denain, demain, vous voulez venir dans la métropole du Grand Paris ou à Lyon, effectivement, votre véhicule ne pourra pas circuler. Et c'est là que les dérogations peuvent intervenir. Et surtout, c'est là où il convient de s'interroger sur existe-t-il des alternatives. Alors, et juste peut-être pour revenir sur mon exemple strasbourgeois, ce que je voulais évoquer, c'est la question de comment on va vers les populations. Comment on permet aux personnes, en particulier les plus précaires, d'être informés et de comprendre ce qui va arriver. Parce que ça, c'est un vrai enjeu. Donc, par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg a mis en place des débats mobiles dans les quartiers. Donc, ils sont allés dans les quartiers, ils sont allés expliquer c'est quoi le sujet, c'est quoi l'enjeu. Et surtout, la première question que les gens ont posée, c'est d'accord, très bien, mais du coup, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là le sujet. Je pense que la ZFE, on n'est pas là pour dire est-ce que c'est une politique publique qui est bien ou pas. La question, c'est quelles sont les alternatives qu'on propose aux personnes pour pouvoir continuer à aller se soigner, à aller travailler, si on a la chance d'avoir un travail, etc., etc. Et donc, à Strasbourg, ce n'est pas, encore une fois, c'est pas la panacée. Je donne cet exemple-là parce qu'on a vu que ces débats mobiles avaient très bien fonctionné. Ils ont mis aujourd'hui en place tout un système de conseils en mobilité, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui accompagnent des particuliers qui sont notamment, ça peut être, mais pas que, hein, mais des personnes peut-être plus vulnérables ou plus précaires, en se disant aujourd'hui quelles sont vos problématiques de mobilité, quels sont vos besoins de mobilité. N'oublions pas de toujours partir des besoins des personnes. Et ensemble, on va regarder quelles sont les possibilités, quelles sont les alternatives qui existent, est-ce qu'il y a des aides possibles pour l'achat de tel ou tel véhicule. Et puis pour terminer, ce qui me semble aussi très intéressant, ce qui a été fait dans l'Eurométropole de Strasbourg, c'est qu'à chaque nouvelle étape de calendrier, on y a associé des alternatives. C'est vraiment là le sujet, en fait, c'est de dire on ne va pas juste interdire pour interdire, mais si demain on décide d'aller plus loin et d'interdire par exemple la circulation des véhicules critère 4 ou critère 3, alors la politique publique se met en place pour proposer des alternatives et pour permettre aux personnes de ne plus être dépendants de ce véhicule critère 3.
Éric Michoud, vous êtes d'accord avec ce que dit Daphné Chamartin-Link, que finalement, si les ZFE avaient été mieux accompagnés, mieux expliqués, structurés avec une politique publique, avec des alternatives, par exemple en termes de transport public, d'information, est-ce que ça les rendrait plus acceptables?
Partiellement plus acceptable. Parce qu'en réalité, bon, ce qui se passe à Strasbourg, c'est très bien décrit comme ça vient de l'être. Moi, je prends le cas de ma circonscription, m'inviter comme un représentant d'un territoire
qui rural, se trouve entre Lyon et Dijon.
Voilà,
exactement. Lyon étant une ville concernée par les ZFE,
et Dijon aussi.
Et Dijon, territoire de vigilance depuis 2025.
Voilà, ce qui veut dire que de toute façon, la plupart des Bressans vont à Lyon pour travailler, qui est pas très loin, ou vont à Dijon. Il faut savoir que dans nos territoires, s'il y avait une approche globale de la mobilité des territoires ruraux, on n'aurait pas fermé la gare. Donc la gare de Louhans a été fermée. C'est-à-dire il n'y a plus de train. Donc c'était pas certainement une grande idée. Par ailleurs, des bus, il n'y en a pratiquement plus non plus. Donc il reste des voitures. C'est tout ce qui reste comme moyen de mobilité.
Mais donc vous êtes pour une politique de transport public?
Bah, je suis pour tout moyen qui va permettre aux gens de pouvoir se déplacer en toute liberté. Parce que ce qui a été dit quand même tout à l'heure, c'est que, ok, vous pouvez aller, mais il faudra demander une autorisation. Enfin, on est quand même dans un système où on va demander une autorisation pour se déplacer. C'est quand même hors de la Constitution, puisqu'on a quand même le droit de la liberté de se déplacer quand même. Puisque là, oui, vous pouvez le faire, mais il faudra demander l'autorisation. Ah oui, parce qu'on est des ruraux et parce que vous n'avez qu'une voiture, vous allez demander l'autorisation à un site internet. D'ailleurs, il faudra être capable d'aller sur le site, parce que quand vous êtes dans les territoires ruraux, aujourd'hui, vous êtes encore dans des zones blanches. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans une zone blanche où il n'a pas de possibilité de se mettre sur internet, il pourra en plus même pas demander l'autorisation. On en est arrivé là quand même.
On en revient à cette question de rupture d'égalité dont vous parliez au début de l'émission. Alors, quelle alternative? Parce qu'on l'a évoqué en tout début d'émission, puis on n'est pas revenu sur ce sujet. Plus de 40 000 morts par an à cause de la pollution. Quelle est l'alternative, selon vous, utile, praticable, qui puisse permettre de réduire les morts de la pollution, les morts causées par la pollution en France?
Là, c'est un débat important, puisque les 40 000, déjà, pour ce chiffre-là, admettons, faire du cynisme autour de ça, ils sont pas liés complètement aux voitures. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça représente 15% des émissions de dioxine. En ville, le plus important, ça reste les microparticules, entre autres des pneumatiques et autres. La solution, c'est de réinstaller dans les territoires ruraux une véritable mobilité. Ça, c'est une chose importante.
Et pour lutter contre le problème de la pollution, c'est-à-dire pas la question de la mobilité, c'est-à-dire d'une question démocratique. Je crois que tout le monde est d'accord autour de cette table, c'est-à-dire d'accès au territoire, de déplacement, de transport.
Mais c'est assez simple, en réalité. Il faut donner du temps aux choses. Et d'ailleurs, il y avait des programmes qui existent sur les voitures qui ne polluent pratiquement plus, des voitures au 1 litre au 100 km, des voitures avec AdBlue qui ne polluent pratiquement plus, et les carburants de synthèse. On n'a pas du tout développé les carburants de synthèse. On aurait développé les carburants de synthèse. D'une part, on réglait le problème de la pollution, et d'autre part, on réglait le problème des voitures électriques et des voitures thermiques, et la fin de nos industries de la voiture thermique. Avec des carburants de synthèse, vous réglez le problème. Mais ça, faut donner du temps.
Je rappelle que dans le programme électoral législatif sur lequel vous avez été élu, vous étiez contre l'interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035.
Mais ce ne sera pas. C'est une erreur, c'est une abomination décidée par l'Union européenne. C'est une vision très parisienne des choses.
Aziza Akmouche.
Oui, moi, je pense qu'on peut quand même pas rester sans rien faire face à un enjeu aussi massif de santé publique. Juste les ordres de grandeur, c'est-à-dire les 40 000 personnes par an, ça veut dire autant de morts que ceux qui sont liés à l'alcool et 12 fois plus de morts que ceux qui sont liés aux accidents de la route. Et sur l'alcool et sur les accidents de la route, on a pris des mesures juridiquement très, très, très contraignantes qui ont permis d'améliorer la situation. Maintenant, quand on a dit ça, effectivement, quand on parle d'alternatives crédibles à la voiture individuelle, de quoi on parle? Évidemment, les transports publics, les métros, les bus, les trams, les RER métropolitains qui sont en train de se développer, qui vont permettre de connecter aussi ces centres urbains avec leurs alentours. Il faut aussi encourager le covoiturage, il faut encourager l'autopartage. C'est quand même hallucinant de voir que 60% des Français continuent de prendre la voiture individuelle pour faire des trajets de moins de 5 km. Sur des trajets de moins de 5 km, y compris dans des zones rurales, on peut trouver des alternatives avec des vélos électriques, avec des pistes cyclables sécurisées. Il faut vraiment penser, mais l'écosystème, c'est-à-dire le menu des options pour changer le modèle et avoir vraiment cette capacité à comprendre qu'il y a des impacts asymétriques selon les territoires et qu'il faut des solutions adaptées en concertation avec les élus locaux.
Pour nous, l'automobile n'est sûrement pas la solution pour la circulation urbaine. Ce qu'on demande, c'est une interdiction progressive donc de la circulation urbaine à Paris.
Nous sommes contre la voie sur berge. C'est une longue marche où nous allons prouver que tout ce qui est fait est absurde, que faire une voie express rive gauche empruntant les berges, c'est amener davantage de voitures individuelles alors qu'il y en a déjà de trop à Paris.
Ça pue, ça pollue et ça rend nerveux. Ça pue, ça pollue et ça rend nerveux.
Alors, ça tue, ça pollue, ça rend nerveux. Voilà un extrait du journal de l'ORTF en 1972, une manifestation contre la voiture à Paris. Vous parliez des territoires ruraux. Et effectivement, on peut pas parler que de Paris lorsque parle de ces problèmes de mobilité. En revanche, on peut parler de la manière dont les esprits ont évolué. On est aux sorties de la guerre et encore dans les années 70, enfin jusqu'aux années 70, dans la grande modernisation qu'ont connu les pays occidentaux et la France en particulier. La voiture n'était pas quelque chose que tout le monde possédait. Encore aujourd'hui, Daphné Chamart-Herlinck, vous nous dites que les populations précaires avec lesquelles vous travaillez le plus souvent ne sont pas forcément dotées d'une voiture. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà du débat sur les ZFE, une question de pédagogique, de transition écologique plus, plus large, peut-être plus lointaine. Peut-être vous trouverez ça peut-être un horizon peut-être trop lointain, Éric Michoud, vous me le direz. Oui. Daphné Chamartin-Lingue d'abord.
Bah, tout à l'heure, on parlait de ce droit à se déplacer. Nous, ce qu'on observe, c'est que le droit à la mobilité, effectivement inscrit dans la loi, il n'est pas effectif. On a aujourd'hui 15 millions de personnes qui sont en précarité mobilité. Ça veut dire quoi être en précarité mobilité ? Ça veut dire soit ne disposer d'aucun mode de transport, c'est le cas de 15 millions de personnes, de 4 millions de personnes qui n'ont aucune alternative et aucun mode de transport. Et le reste, ce sont des personnes qui ont des déplacements de plus en plus longs et qui ont de moins en moins d'argent pour mettre du carburant dans la voiture. Et donc ça, en fait, il faut le considérer. Ce droit à la mobilité, aujourd'hui, il est pas effectif. Donc quand on vient parler de changer de modèle en matière de mobilité, quand on vient parler de transition écologique, nous, on est assez persuadés qu'en fait, ça vient rejoindre l'ensemble des sujets. C'est-à-dire que si on change de modèle de mobilité, c'est à la fois résoudre un enjeu écologique majeur. Premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France, c'est les transports. Et même si c'est compliqué pour la plupart des personnes en précarité, rappelons-le, ce sont les personnes les plus précaires qui ont le plus besoin que la transition écologique advienne, parce que ce sont eux qui seront et qui sont déjà les plus impactés par l'ensemble des dérèglements écologiques. C'est changer de mobilité, c'est aussi un enjeu sanitaire, on le dit depuis tout à l'heure, et c'est un enjeu économique, parce que c'est aussi le poste qui a le plus augmenté ces 5 dernières années. Donc quand on vient penser à un modèle autrement que fondé sur la possession individuelle de la voiture thermique, on arrive à jouer sur l'ensemble des tableaux.
C'était avant tout aux élus locaux de faire ce travail, Éric Michaud ?
C'est aux élus locaux, c'est aussi des dispositions nationales, c'est une manière d'aborder la question de manière, on va dire, éducative. Qu'à Strasbourg, on amène une situation où il n'y a plus de pollution, moi je suis pour, évidemment. Tout le monde est pour qu'il n'y ait pas les 40 000, on s'entend bien. Le sujet que je défends, c'est les populations rurales qui peuvent plus se déplacer. C'est un élément parmi d'autres. On parlait des PE très rapidement. Les maisons en territoire ruraux, vous pourrez bientôt plus les habiter puisque c'est 600 000 appartements qui seront plus accessibles parce que si vous n'êtes pas critère G, votre maison, vous pouvez pratiquement ni la vendre ni la louer. Les ZAN, zone zéro artificialisation de construction,
du sol.
Exactement. Bientôt aussi en territoire ruraux, on peut plus construire. On peut plus construire, on peut plus modifier les maisons et on peut plus les habiter et on peut plus se déplacer. À un moment, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est un ensemble.
Très rapidement, Daphné Chamartin-Lingue, vous dites non de la tête.
Bah, c'est-à-dire que si on résume la problématique comme ça, on n'avance plus. Et en fait, l'inaction, ce n'est pas la solution. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Bien sûr, ce n'est pas la panacée. Vous citez, par exemple, la question de l'interdiction de la location des passoires thermiques. Nous, ce qu'on observe dans les personnes qu'on accompagne, c'est qu'aujourd'hui, c'est des familles qui ont 4 000 euros de facture d'énergie et il fait 14 degrés chez eux et ils n'arrivent pas à chauffer la chambre de leurs enfants. Je ne dis pas ça pour rentrer dans un système complètement émotif, mais simplement pour se dire que, en fait, j'entends bien, interdire, c'est jamais satisfaisant. La réalité est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vivent dans des passoires thermiques et c'est mauvais. C'est le même exemple. C'est mauvais pour la santé, c'est pas bon pour le portefeuille, c'est mauvais pour la planète. Et c'est aussi des personnes qui, de toute façon, aujourd'hui, se restreignent en matière de déplacement. Et donc, en fait, oui, à un moment, il nous faut des politiques qui nous permettent, encore une fois, de permettre une transition écologique et de permettre à tous d'accéder à ces besoins essentiels.
Alors, dernier point, on parle du coût de l'inaction climatique. Il y a aussi le coût que coûterait à la France de la suppression des ZFE. C'était la ministre Agnès Pannier-Runacher qui l'a rappelé cette semaine. La suppression des ZFE pourrait contraindre la France à rembourser 3,3 milliards d'euros à Bruxelles. Comment fait-on dans le contexte budgétaire dans lequel on se trouve, Éric Michoud, où va-t-on chercher cet argent pour le rembourser à Bruxelles ? Rapidement, Éric Michoud et puis Aziza Akhmouche.
On donnera rien à Bruxelles du tout, parce que je vais vous dire autre chose. Quand vous allez aujourd'hui empêcher 12 millions de voitures de se déplacer, qui veut dire que la valeur de la voiture va baisser, une voiture qui ne peut pas se déplacer, c'est une voiture qui n'a plus de valeur marchande. Si vous perdez 5 000 euros sur une valeur d'une voiture et qu'il y a 12 millions de voitures, ça coûte 60 milliards d'euros à la population en général. Qui va rembourser ça à la population ?
Aziza Akhmouche,
c'est évidemment un bon argument, celui de ce coût inhérent à la suppression pour garder les ZFE et les améliorer. Et il faut rajouter à cela d'ailleurs le coût économique de l'inaction qui a été souligné par Daphné, parce que c'est entre 16 et 17 milliards par an, juste pour les questions de santé, auxquelles il faut rajouter les coûts économiques et environnementaux liés à la perte d'emploi et de productivité. Donc je pense qu'il y a de quoi garder la mesure.
Merci à vous trois pour ce débat. On l'a vu, les ZFE dépassent largement le simple les simples barrières de nos villes pour adresser en réalité tout un débat sur la morale, les logiques, l'éthique que nous portons, et les enjeux démocratiques que nous portons derrière la transition écologique. C'est la fin de ce débat. Merci Daphné Chamard-Terlinck, responsable transition écologique juste au Secours catholique, Aziza Akmou, chef de la division ville, politique urbaine, développement durable à l'OCDE, et monsieur le député Éric Michoud, député du groupe UDR de la 4e circonscription de Saône-et-Loire. Merci également à Juliette Moilic pour la préparation de cette émission. 19h avance à grands pas sur France Culture. Restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes seulement après le point info pour la deuxième partie de cette émission consacrée ce soir au désir guerrier de la modernité en compagnie de la philosophe Déborah Brostaud.